Toute l'actualité à retrouver sur notre site rfi.fr. Dans quelques secondes, ce sera Mardi Politique sur la Radio du Monde, 18h10 à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, et vous voulez que votre dernière création passe à la radio?
Alors participez à la 6e édition de Radiovision, le concours de chansons.
Rendez-vous sur radiovision.fr, mais attention, c'est jusqu'au 18 avril seulement.
Bonne chance et à bientôt pour la finale sur radiovision.fr.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'écoute du 101.5 FM de Radio G, à l'écoute de Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins, pour se tenir informé de toutes les actualités, alors que ce soit de l'information, mais aussi de la culture, de l'économie, enfin bref, tout ce qui agite le territoire passe dans cette émission entre 18h10 et 19h. Hier, on rappelle avec Nolwenn que nous étions avec Sarah et Lorelai, et on parlait du film, du festival du film Inter-CSE du Sésame, Nolwenn.
Exactement, c'est ça, on parlait des 5 films que les salariés vont pouvoir voir.
Voilà, donc si ça vous intéresse, on vous renvoie vers le podcast d'hier sur le site internet radio-g.fr. L'émission s'appelle Topette, il faut aller dans l'onglet émission tout simplement. Émission qui demain, on sera avec Terre des Sports, c'est plutôt toi qui vas gérer ça je crois Nolwenn, t'aimes bien le sport.
Exactement, on a parlé de ce festival, ça arrive très bientôt, je crois c'est le 25 et 26 mars en semaine à Luco.
Voilà, on en parle demain, on sera avec Théo, Erin et Antonin me semble-t-il. Jeudi, on sera du côté de Loire-Authion, à l'est de l'agglomération angevine. Et ce soir, on est bien ici, quoique pas tout à fait, puisqu'on va être avec le Quasimodo. Vous vous souvenez, il était venu nous parler de son périple en perspective de sa série de vidéos sur le personnage le Quasimodo, qui est donc maintenant bien avancé, qui est quasiment bouclé, justement, l'occasion d'en parler, de reparler de ses inspirations, de pourquoi cette comédie musicale l'a marqué, et puis bah, de toutes les belles aventures qui se sont offertes à lui, puisqu'il y a Hélène Segarra par exemple, BFM, voilà, enfin c'est pas rien quand même, c'est angevin, mais ça s'est exporté tout partout sur le territoire national, et c'est pas fini, paraît-il. En deuxième partie d'émission, on sera avec Cathy Germain, l'auteur de La Petite Fille au Sourire Figé. C'est un témoignage d'une personne, donc Cathy elle-même, qui est concernée par la bipolarité, pour partager ce que c'est au quotidien, l'importance aussi d'en parler. Elle sera avec nous donc en deuxième partie d'émission Topette, tous les soirs 18h10, 19h. Nolwenn, c'est parti.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
On aura aussi Vélopédia, j'ai oublié de citer Nicolas à 18h30, mais avant tout ça, on fait un point sur les actus locales. Et Nolwenn, on commence avec un car scolaire qui a été détruit par les flammes. Heureusement, aucun blessé.
Spectaculaire incendie ce matin sur la D6 entre La Cornouaille et Candé dans le Maine-et-Loire. Un car de transport scolaire a été entièrement détruit par les flammes. L'incendie d'origine accidentelle s'est déclaré alors que le véhicule était en circulation. Heureusement, aucun enfant ne se trouvait à bord. Seul le chauffeur était présent. Il a pu sortir à temps et donner l'alerte. Il s'en sort donc indemne. La circulation a dû être interrompue le temps de l'intervention des secours.
La violente expédition punitive au Metz-sur-Èvre. Un homme qui a été condamné à 2 ans de prison ferme.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2024, un couple du Metz-sur-Èvre a été violemment agressé à son domicile. 2 hommes ont frappé à leur porte en se prétendant être la police. À peine la propriétaire a-t-elle ouverte qu'elle a été aspergée de gaz lacrymogène et plaquée au sol. L'un des agresseurs était parti fouiller la maison. Leur objectif, récupérer des stupéfiants liés au trafic de drogue. L'un des assaillants, un jeune homme de 26 ans, a été jugé hier par le tribunal correctionnel d'Angers. Des déjà impliqué dans l'affaire Zanzi Shop, un vaste réseau de drogue démantelé en avril. Il a reconnu les faits, mais assure qu'il n'avait pas l'intention de faire de mal. La justice l'a condamné à 2 ans de prison ferme.
Il y a quelques temps de ça, Nolwenn, tu nous parlais d'arborescence. Là, ça va te plaire aussi. Architecture oblige. À Angers, le projet Métamorphose qui prend forme avec l'arrivée de ses premiers commerces et bureaux.
Parmi eux, la nouvelle brasserie Le Faubourg Angevin, prévue pour ouvrir à l'automne. Elle proposera une cuisine plutôt traditionnelle dans un cadre chaleureux de 150 places assises aux commandes de 3 restaurateurs expérimentés qui espèrent attirer une clientèle variée du CHU voisin, de l'université, mais aussi des cinémas et du patinage. Autre ouverture attendue dans ce bâtiment futuriste, le Pod, un espace de coworking de 1500 mètres carrés. Premier résident professionnel du site, il offrira des bureaux partagés, des open space et des salles de réunion.
Des dates à vous annoncer quand même avant de recevoir notre invité de ce soir. Nos invités de ce soir, le plateau cinéma de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin dans la salle culturelle Camille Lepage. On en parle assez souvent dans cette émission. C'est le 20 mars et là on va s'intéresser, ça s'appelle Au cœur de l'atelier d'artistes. On vous renvoie vers leurs réseaux sociaux et le site internet. Le festival Couleurs Chansons aussi, c'est ce week-end du 21 au 23 mars avec Niobe qui sort son nouvel album qui sera donc en ouverture dès le vendredi soir le 21. Pareil, plus d'informations sur le site internet Festival Couleur avec un S, chanson sans S, même s'il y aura plusieurs chansons francophones notamment. Et les 25 et 26 mars, 2 soirées Stevie Wonder proposées par Pierrick Meunier avec, ce sera au Boléro. Voilà, c'est avec les élèves du département jazz. Maintenant, on peut accueillir notre premier invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Notre-Dame de Paris est en feu et son maître est mort dans l'incendie. C'est donc enfin libre que Quasimodo décide de partir de Paris pour aller découvrir la France.
Te voilà, Quasimodo.
Ouais.
Je suis la magicienne.
Ah bon?
C'est Esmeralda qui m'envoie.
Ah, Esmeralda, elle est où?
Ceci est un artefact magique appelé un film. Il te montre une version de ta vie.
Alors ça voilà, c'est un extrait de la chaîne YouTube Le Quasimodo qui est avec nous ce soir dans Topette. Bonsoir Quasimodo.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va, je vais parler normalement. Ça
oui
sera
parce
plus
que
simple.
Sinon pendant les 50 minutes ça risque d'être un petit peu long pour tes cordes vocales. Tu étais venu il y a, donc on en parlait juste avant de commencer l'émission, en 2023 pour nous parler de ce projet de série de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ça y est, on a quasiment tout bouclé, ça va se conclure le 6 avril, tout est en boîte en tout cas, il reste plus qu'à à publier maintenant. Beaucoup de chemin parcouru, on va en parler de tout ça, mais on va aussi parler donc de cette série de vidéos, bien évidemment, mais peut-être prendre le temps de te représenter. Toi, le Quasimodo, qui es-tu? Comment est venue cette idée de projet? Parce que là, on ne le voit pas, mais en plus, t'es en costume, t'es habillé.
Normal.
Nolwenn a vraiment cru que c'était Garou qui était avec nous en studio l'espace d'un instant.
Donc, le Quasimodo, je suis un des grands fans de la comédie musicale et de l'œuvre de Monsieur Victor Hugo, donc Notre-Dame de Paris principalement, même si j'aime bien cet autre bouquin, et de toutes les adaptations qui ont été faites de Notre-Dame de Paris. Et ça fait 25 ans que je voulais faire le projet de la série, balader Quasimodo partout. Et bah maintenant c'est fait. Voilà, je suis pas réalisateur, je m'y connais pas dans le monde du cinéma, mais je suis passionné de la vidéo et avec le peu de moyens que j'ai quand même fait le projet qui est sorti maintenant sur la chaîne au calme.
T'avais quand même l'outil essentiel pour bien mener ce projet qui était la motivation, l'envie bien évidemment, puisque t'as été jusqu'au bout. Je crois que c'est J.K. Rowling qui a dit quand on a un truc en tête, faut aller jusqu'au bout, même si ça donne pas exactement ce qu'on voulait, au moins on aura le plaisir d'avoir été jusqu'au bout. Est-ce que c'est un petit peu le sentiment que tu commences à avoir à la perspective de la publication de la dernière vidéo?
Je dirais plutôt que j'ai fait ce que certains grands ponte américain arrêtait pas de dire, c'est toujours croire en ses rêves. Et même si t'as des négatifs, des trucs qui sont pas bien, tu te focalises sur le positif et t'avances. Et je m'adapte de toute façon. Donc c'est le projet d'une vie, c'est mon bébé et je suis très content, même s'il y a des bourdes, même si j'ai vu que c'est au montage j'ai fait quelques erreurs dans certains épisodes qui sont sortis. On m'a fait remarquer des erreurs, que oui, en effet. Mais je suis très content pour ce qui est déjà sorti. Et c'est une belle aventure. Oui. C'était une belle aventure.
C'était une belle aventure. Une autre aventure arrive très prochainement. Ça, on pourra peut-être avoir un premier aperçu à la fin. On va en reparler de cette aventure, bien évidemment. Juste pour présenter les choses. Cette série de vidéos YouTube, qu'on comprenne bien. Quelle est l'histoire? Combien d'épisodes il y a? Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, ça raconte ça raconte les aventures de Quasimodo qui quitte Paris comme on l'a entendu au tout début avec la voix de Monsieur Page, Pierre-Alain de Greg. Merci encore à lui, à certains comédiens qui ont accepté de participer au projet, donc Brigitte Cordier et bien d'autres. Donc je me suis servi de la catastrophe de Notre-Dame de Paris, donc la vraie catastrophe dans notre monde à nous, hein, la tour qui a du moins la flèche qui est tombée, pour avoir la très bonne excuse pour le personnage de quitter Paris et d'aller, comme il le dit, partout en France. Ça me permet surtout de... Il y a 14... Oula, je suis en train de m'embrouiller, je m'excuse. Il y a 14 épisodes, et l'histoire, c'est Quasimodo qui part de Paris pour découvrir la France. Il va arriver à Angers, il va rencontrer la magicienne qu'on a entendue, qui va lui dire, il y a Esmeralda qui t'attend là-bas, et à chaque épisode, il va trouver une lettre signée Esmeralda, qui va en gros lui dire, on s'est radé de peu, rejoins-moi à tel endroit. Et le pauvre bossu va s'amuser à traverser toute la France pour la retrouver, ou pas. Et en même temps, je me sers de ça pour faire un... Parce qu'il y a très peu de gens qui savent qu'il y a eu d'autres adaptations à part le Disney. Et je me sers de sept épisodes où je m'amuse à mettre des extraits de ces films pour que mon Quasimodo s'amuse à tacler les Quasimodo, les Frollo et les Esmeralda de ces films-là. Comme ça, ça fait un peu de culture générale pour les gens. Et moi, ça me permet de m'amuser... à des affaires, oh il est laid, oh il est beau, oula, non, Vincent Lagaffe, sort de ce corps.
tu brises un petit peu le quatrième mur d'une certaine façon, mais de manière assez subtile.
Et c'est justifié par le biais de la magicienne, parce que magicienne, magie, donc je peux un peu me laisser, grâce à ce personnage-là, je l'aurais pas fait.
En tout cas, j'imagine que les aficionados, les amoureux de la comédie musicale, de l'œuvre de Victor Hugo, ils verront les références, pourront avoir une proposition, un regard supplémentaire, puis même une extension aussi des aventures de ce personnage. Est-ce que, Nolwenn, tu connaissais l'histoire et de Quasimodo, alors que ce soit le Disney ou quoi, et la comédie musicale?
J'ai une très très mauvaise culture cinématographique, tout ça, donc je connaissais aucun des deux. Voilà.
Alors Quasimodo, Quasimodo, je te pose la question puisque t'es avec nous, comment on pourrait décrire un petit peu le... Nous on pense, toi t'es parti de la comédie musicale, peut-être qu'on peut partir de ça pour raconter le personnage de Quasimodo.
Alors je suis parti à la base du bouquin.
Du
personnage du bouquin, après le costume est celui de la comédie musicale de 98,
visuellement.
Pas celle de 2016. Et mon Quasimodo est un mélange de tous les Quasimodos qu'il y a eu, que ça soit dans la débilité que... certains Quasimodo, dans la motivation et la poursuite d'Esmeralda, donc être accro assez poussé, qu'il y a eu dans certains Quasimodo. Et donc je mélange tout ça dans un seul, dans le mien, en gardant donc le visuel de Garou, parce que ça reste le plus intéressant visuellement. Et bah c'est tout simplement, si on devait résumer Quasimodo, c'est un sonneur de cloche, donc un peu sourd, un peu bedin, qui a été très vite torturé par Frollo et qui a un passé très très intéressant qu'on prend le temps de se renseigner, et qui donc tombe raide dingue au point d'être ensorcelé par la gitane Esmeralda. Un peu dans le même délire que le pouvoir qu'elle a sur Frollo, au point que Frollo la veut pour lui et tout, c'est un peu le même délire, sauf que Quasimodo a l'amour vrai pour lui, pour l'excuse. Et donc ça explique pourquoi le pauvre bossu s'amuse à courir partout et...
Et tout ça, c'est l'histoire de base dans le roman de Victor Hugo.
C'est l'histoire de base et c'est l'histoire que je continue à perpétrer dans la série parce que ça reste le truc numéro un de tout le roman. Ça reste.
Et la comédie musicale a bien évidemment aussi eu un impact sur toi. Tu en es un grand amoureux et on va se donner un petit aperçu comme ça. On va refaire en même temps la culture musicale et visuelle aussi de Nolwenn. On écoute Belle, c'est Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou. Et on revient tous ensemble après juste sur le 100.5 FM de Radio G.
Belle, C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle quand ces mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel? Cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.
J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane.
Belle de Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou. C'est bien évidemment extrait de la comédie musicale Le Bossu de Notre-Dame.
Non, Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris, tout simplement. Ben oui, je suis avec le Quasimodo. On est avec le Quasimodo ce soir qui est là pour vérifier nos propos. Le Quasimodo, donc on parle de cette série de vidéos YouTube que tu as proposée sur YouTube. Et qui
et que je propose encore. Hein.
Et que on tu proposes pas... encore. On peut toujours aller voir, bien évidemment. Ça se trouve assez facilement. C'est le Quasimodo. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous tapez Quasimodo Angers, vous allez tomber sur la chaîne en un clin d'œil. Oui, c'est comme ça. Le Quasimodo, il y avait beaucoup de trucs avant, donc Quasimodo Angers, ça marche aussi. On va parler de cette belle aventure, du coup, surtout au-delà des vidéos, de tout le projet, de tout ce que ça t'a amené à faire, et les belles rencontres, bien évidemment, beaucoup d'émotions, j'imagine. Avant, puisqu'on en parlait de, donc, évidemment, cette histoire du personnage, le Quasimodo que tu proposes, est essentiellement donc issue, c'est une poursuite de l'histoire originelle proposée par Victor Hugo, mais visuellement, tu t'es beaucoup inspiré parce que tu l'adores, cette comédie musicale de 98. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le costume que tu portes pour nous donner à voir?
Alors, Je vais utiliser les termes de Fred Sattal en même temps, vu que j'ai pu le rencontrer. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Fred Sattal, c'est la costumière qui a travaillé sur la comédie musicale en 1998. Uniquement, elle n'a pas travaillé dans les versions qui ont été faites après par Luc Plamondon et Richard Cresciante. En gros, le costume est basé sur une tenue de moine bouddhiste, mais au lieu que ça soit orange, un peu, je sais plus quelle couleur ont les tenues bouddhistes, mais je crois que c'est du orange qu'ils ont. Et ben, c'est une tenue bordeaux, avec beaucoup de rafistolage, mais en gardant le même tissu. Avec un tissu bien plus épais que la tenue des moines qui est en tissu assez léger. Là, c'est quand même beaucoup plus épais. La bosse est sont des coussins mis en quinconce pour faire une bosse au niveau de l'épaule et rattachée à, on va dire, une brassière, un bras. Et donc après, tu mets la tunique et le pantalon est un pantalon qui a été totalement flingué. Dans le sens qu'on a que t'as des espèces de boudins pour visualiser l'atrocité qu'est le bossu en plus de la bosse, bah il faut aussi que les jambes soient flinguées. Donc il y a des petits boudins à quelques endroits sur le pantalon et les chaussures sont grossies parce que gros pied pour l'atrocité du personnage. Pour faire très simple, vous tapez Quasimodo Notre-Dame de Paris ou Quasimodo Garou et vous tomberez automatiquement sur une représentation de la tenue que j'ai.
Ou sinon, on va simplement sur ta chaîne YouTube. Oui, aussi. Et comme ça, on voit concrètement à quoi tu ressembles.
Oui,
en tout cas, c'est impressionnant. On a l'impression à la fois de voyager dans le temps et en même temps de partir dans un conte. Nolwenn, on y croit vraiment. On a vraiment l'impression d'être avec Quasimodo. Hein.
Ah mais je l'ai devant moi. Il y a pas de doute.
Le maquillage aussi, les cheveux, tout est absolument travaillé. Alors là, on n'a pas l'incarnation encore. Oui, vas-y.
La couleur de cheveux, j'ai plus les cheveux rouges, la teinture est en train de partir, donc il va falloir que un peu beaucoup. Et la vraie posture, normalement, c'est comme ça, était censé faire « Oh, oh, belle, belle ».
Voilà. Et ben voilà, elle est avec nous. Enfin, Quasimodo est avec nous pour de vrai. Cette aventure, alors, parce que du coup, bon, il y a les vidéos, ça c'est la restitution, mais tu parlais tout à l'heure, c'était difficile, il y a eu des noms, il y a eu des oui, il y a aussi des rencontres incroyables. On va pas pouvoir tout être très exhaustif sur tout ce qui s'est passé pendant deux bonnes années maintenant. T'as rencontré Hélène Segarra, par exemple, t'es monté sur scène, t'es passé sur BFM, tu parlais de Brigitte Lecordier, qui est la voix française de Oui Oui ou de
Sangoku.
De Sangoku aussi, qui fait énormément de voix françaises. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans tout ça? Qu'est-ce que tu vas retenir à la fin de cette aventure?
Alors sur les deux ans, il y a tout naturellement le moment d'Hélène Segarra. Je suis désolé, on peut pas passer. Ouais, ce truc-là était juste un moment magnifique. Le fait que Gwendal.
Tu t'es incrusté sur scène.
Alors non. Gwendal m'a fait monter sur scène le temps d'un refrain. Ce n'est pas moi. Alors Gwendal Marimoutou, pardon, qui est un des chanteurs de la troupe Les Comédies Musicales, qui en plus vont être à Nantes le 5 avril. Le 5 avril, ils sont au Palais des Congrès de Nantes avec un best-of, donc il y a tout un truc qui est organisé. Je vais aller les voir, mais je ne vais pas monter sur scène, parce qu'il n'y a pas Hélène Segarra, donc il n'y a aucune raison qu'il me fasse monter, pour le coup. Mais c'est juste dingue, ce moment d'être monté le temps d'un refrain avec Hélène Segarra, à quel moment je pouvais...
Donc c'était à Trélazé, ils étaient à Trélazé, Hélène Segarra joue dans...
Non, pas au Palais des Congrès d'Angers.
Ah, au Palais des Congrès.
C'était à l'Amphithéâtre en novembre dernier. Si je dis pas de bêtises. Oui, si, c'est ça, c'était octobre ou novembre. Bon, bref,
c'était il n'y a pas très longtemps.
Voilà, c'était récemment. Et donc, j'y vais en mode, je vais y aller, histoire de correspondre au sujet du truc. Mais en mode, je vais juste essayer d'avoir une photo de Hélène, et puis c'est bon. Et grossièrement, pendant le concert, Gwendal me voyait parce qu'il m'avait vu quand il est arrivé, machin. Et pendant le show, ouais, il y en a qui ont fait des efforts aujourd'hui. Il a passé 3-4 moments pendant le spectacle à me mettre en avant, alors que j'ai rien demandé, que j'ai surtout pas voulu, voilà. Mais il m'a mis en avant. Et quand il y a eu la chanson Les oiseaux qu'on met en cage, je me suis approché, mais en mode, je vais juste me mettre au pied de la scène pour faire un coucou à Hélène, pour que Gwendal fasse du tien. Regarde, il est là. Mais en aucun cas, je n'aurais pu imaginer dans mes rêves les plus fous faire de moi monter sur scène et faire un playback avec la voix de Gwendal devant ma chère Esmeralda.
Ça a dû être un moment intense, riche en émotions. Il y a une vidéo qui le raconte hein, sur, ouais. sur ta chaîne YouTube. Du coup, elle n'était pas anticipée, cette vidéo. Hein, c'est un bonus, c'est un plus. Énormément d'émotions. Qu'est-ce que ça représente pour toi après tout ce que tu, tout l'amour que tu portes pour cette comédie musicale, tout ce que tu as investi aussi dans le personnage, c'est un peu une consécration.
Ah, c'est juste le plus beau cadeau de ma vie. J'ai 33 ans. Et là, au moment de quand Gwendal m'a fait monter, je suis passé de 33 à 10. Donc j'étais l'enfant ébahi et en plus la réaction qu'a eu Hélène quand on a fait le refrain, c'est magnifique parce que je voyais le retour en arrière qu'elle s'est pris réellement. Elle a pris 25 ans dans la tronche, mais de souvenirs de la comédie musicale et même le public a été impressionné. C'est un moment juste magnifique pour tout le monde, pour Hélène, pour moi, pour le public, pour je pense Gwendal aussi parce qu'il a quand même bien connu la comédie musicale, je pense. Donc l'émotion était présente tout le truc et j'ai encore du mal et j'ai toujours les vidéos pour la voir là, toujours
et,
en tête.
Et au petit enfant du coup qui adorait cette comédie musicale il y a quelques années et qui n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver tout ça, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de croire, de ne pas lâcher?
Faut jamais lâcher les rêves pour tous les enfants et toutes les personnes qui écoutent la radio. Croyez toujours en vos rêves. Il y aura des bâtons dans les roues, il y en a tout le temps. De toute façon, si la vie était facile, ça serait pas la vie, ça serait un jeu vidéo des années voilà ou un Mario Kart.
C'est pas tout le temps facile Mario Kart. Hein.
Oui, oui, surtout avec la carapace bleue. Mais grossièrement, ça reste un jeu vidéo, donc c'est les voilà. Mais ouais, faut ne jamais rien lâcher et toujours réadapter ses projets pour que ça reste quand même le projet principal. Mais faut toujours s'y croire et à la fin, on y arrive quand on est vraiment motivé. T'atteins tes objectifs, quoi. Plus ou moins selon ce que c'est. Mais
Et d'un tout petit mot, hein, merci global à toutes les personnes qui t'ont aidé aussi, parce que c'est pareil, on peut pas toutes les citer, mais il y a des personnes qui t'ont aidé à la prise de vue, des personnes qui t'ont aidé à incarner certains personnages, il y a des personnes qui t'ont aidé à rencontrer justement.
Gwendal, Hélène, Daniel, Philippe Tremblay, j'ai rencontré toute la troupe actuelle de Notre-Dame de Paris, donc je vais, ils vont me tuer. Alizé Lalande qui jouait Fleur de Lys, Philippe Tremblay et Angelo De Vecchio qui sont les deux qui font Quasimodo. Je les ai rencontrés. Daniel Lavoie, donc Monsieur Frollo de 98 qui continue encore à faire Frollo parce qu'il adore ce personnage et il continue à le faire évoluer. Que j'ai pu rencontrer. Il y a donc Hélène. J'ai pu parler rapidement avec Patrick Fiori de la troupe d'origine à Trélazé. C'est pour ça que t'avais Trélazé en tête. Et tous les autres que j'ai pu filmer et avec qui j'ai pu taper la discu très rapidement lors de leur passage à Nantes en juin 2024.
J'espère que t'as bien noté, heureusement qu'il y a les vidéos pour souvenir de tout ce qui s'est passé pendant ces deux années, sinon ça fait énormément de souvenirs à garder en tête, des souvenirs qui vont continuer à se construire, puisque déjà d'une, c'est pas totalement fini, il reste encore au moins un épisode. Hein,
trois
épisodes.
Il y en a encore trois jusqu'au 6 avril.
Tous les dimanches midi sur ta chaîne YouTube, okay. Le Quasimodo. Et en plus, il y a d'autres aventures qui arrivent. Ça, tu nous en parles dans quelques instants. Mais avant tout, on va déjà recevoir Cathy Germain pour nous parler de son livre. Et avant tout ça encore, on va partir sur les pistes cyclables avec toi, Nico.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Bonsoir à tous, amis cyclistes. C'est avec espoir que je démarre cette dernière chronique de l'hiver, puisque dans deux jours, c'est le printemps. À partir de jeudi, s'offre à vous monts et merveilles sur les pistes cyclables. C'est aussi l'heure du top départ des chantiers prévus par Angers-Loire Métropole pour venir rattacher 40 km supplémentaires de pistes vélo.
Oh, on fait chier avec leurs travaux les cyclistes!
Et oui! Cette année, certaines villes comme Écouflant, Longnay-en-Anjou, Beaucouzet, Saint-Léger de Lignières, Sainte-James-sur-Loire, Les Pensées et Saint-Barthélemy d'Anjou vont bénéficier d'une amélioration pour communiquer avec le centre-ville d'Angers à vélo. Ça veut dire génie civil et tout le toutim, hein ? 6 millions d'euros sont débloqués et permettront aux cyclistes angevins de rouler encore plus sécurisés. En 2026, le réseau s'étendra de nouveau. Et pour une ville comme Angers qui grossit à vue d'œil, notre réseau n'est pas si mal quand on revient 15 ans en arrière. Aujourd'hui, on a quand même 3 ponts sans voiture en plein centre-ville. Alors, avec ce printemps qui s'annonce et vos bonnes résolutions du 1er janvier, en selle, les beaux jours sont là, la Loire est basse et c'est l'heure des guinguettes. En plus, on passe toujours un bon moment à vélo. Écoutez.
Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan?
J'ai ma chaîne qui a sauté. Oh là là,
donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes en bossé, hein.
Vas-y donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein.
Allez. Mais dites-donc, ça fait 2 fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Eh ben alors, c'est normal, non?
Excusez-moi. Au fond, pourquoi c'est normal?
Si c'est normal, c'est normal parce que...
Oui, parce que je suis un manuel, sans doute.
Eh ben parfaitement, voilà.
Ah, très bien.
Mais vous savez, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute.
Ne croyez pas que ça va durer, hein, parce que j'en ai marre de voyager avec un mec comme vous. Je fous le camp.
J'en ai marre. Ouais. Vous me laissez tomber, hein. Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé, hein.
Je vous le dis, à vélo, on s'éclate. Allez, salut!
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Et parce que normalement les beaux jours sont de retour, bien évidemment qu'on ne va pas lâcher le guidon de notre vélo et continuer à en faire. Donc Nicolas, on te retrouve dans 2 semaines dans Topette. On est toujours avec le Quasimodo avec nous en studio ce soir dans l'émission. Mais avant tout ça, on va accueillir Cathy pour parler de son ouvrage « La petite fille au sourire figé ». On continue dans Topette ce soir. Nous sommes maintenant avec notre autre sujet de la soirée. On est avec Cathy. Bonsoir Cathy.
Bonsoir.
Cathy Germain, tu es l'autrice, l'auteur, je ne sais pas comment on le féminise ce mot, mais en tout cas tu es l'auteur de La petite fille au sourire figé dont on va parler ce soir maintenant. Un témoignage de vie sur la santé mentale, sur ta santé mentale, puisque c'est un récit de toi-même aussi, plus particulièrement même sur la bipolarité. Ça a été très thérapeutique pour toi, c'est comme ça que tu l'annonces en tout cas, et tu souhaites partager ton vécu, ton expérience pour faire profiter d'une certaine manière les personnes qui seraient peut-être dans des situations similaires, analogues et qui auraient besoin d'avoir des conseils. Ce serait pas non plus on remplacerait pas un professionnel de la santé, mais en tout cas ce serait comme une petite lumière qu'on pourrait saisir, vers laquelle on pourrait aller pour mieux comprendre ce qui nous arrive. On va en parler du coup du récit, déjà de ce qui se passe dans ce récit, ce que tu racontes, comment tu le racontes, si c'est vraiment juste une sorte d'autobiographie ou si tu as un petit peu romancé le tout. Mais avant tout, Cathy, comment tu te présenterais, toi? Qui tu es? Comment tu es auteur? Tu es aussi un peu thérapeute parfois, coach? Comment tu te définirais?
Moi, c'est vrai que en ce moment, depuis presque un an maintenant, je suis auteur donc de ce livre qui est un témoignage de vie. Je suis aussi une personne qui témoigne. Alors en général, que ce soit à travers le livre, quand j'échange avec les personnes ou quand on me demande d'expliquer ma vie, mon quotidien. Donc c'est vrai que là, ça me prend, ça c'est un métier, on va dire, à temps plein. Et j'en suis ravie parce que ça me nourrit, en fait. Ça m'aide aussi à aller bien dans ma tête. Donc c'est super.
Comment ça s'est fait, tout ce cheminement?
Alors c'est vrai que je parle de la petite fille qui a connu aussi, qui avait un papa qui était à l'époque donc maniaco-dépressif, c'était comme on appelle la maladie à l'époque, qui est la bipolarité. Donc j'avais un rôle d'aidante et cette petite fille a eu du mal à se construire et au fur et à mesure que la grande Cathy avançait dans sa vie, elles se sont donné la main en fait pour cheminer. L'une a soigné l'autre et vice-versa. Donc moi, je suis à mon tour devenue patiente, donc comme mon papa, donc en bipolarité. Donc mes proches sont devenus des aidants, mais rien à voir au niveau de la stigmatisation et du tabou. C'était très tabou à l'époque. Et là, heureusement, on en parle de plus en plus grâce à des émissions comme la vôtre. Donc je vous en remercie. Donc voilà, c'est très important en fait d'aller de l'avant.
Je le dis maintenant, tu parles de stigmatisation, de préjugés aussi. Alors là, tu évoques le fait que tu aies aidé ton papa qui était lui-même donc atteint de bipolarité. C'est pas une contagion, hein, c'est pas ça qui provoque cette maladie. Hein, ça a rien à voir parce que ça, c'est aussi c'est des lieux communs qu'on peut avoir quand on ne connaît pas les choses. Tu pourras nous expliquer un petit peu plus largement tout à l'heure ce qu'est la bipolarité, comment on la détecte, comment elle se manifeste. Mais justement, ce récit-là, parce qu'on commence à en parler de cette petite fille au sourire figé. Comment il est raconté? Comment tu racontes tout ça dans ton livre?
Non, en fait, je raconte vraiment, enfin, c'est du 100% vrai. C'est vrai que tout à l'heure vous parliez peut-être de romancé. En fait, non, c'est vraiment du témoignage pur, en fait. Et il a fallu, c'est vrai, qu'avoir le courage de tout ou presque coucher sur le papier. Mais pour faire une thérapie, c'est ce qu'il faut, en fait. Faut que, ce qu'on dit souvent, écrire, parler des mots avec des mots. Et c'est vrai que les mots de la petite fille ont été soignés aussi grâce à ça. J'ai eu des traumatismes pour diverses raisons, en fait, et c'est vrai que ce livre-là a aidé à la fois la petite et la grande Cathy. Ouais.
La petite fille au sourire figé, en fait, c'est vraiment le témoignage. Tu expliques ce qu'il t'est arrivé pour toi-même mieux le comprendre, pour le partager aussi. Ça a été thérapeutique dans la démarche. Comment t'en es venu à faire cette proposition? C'est un professionnel de santé qui t'a accompagné?
Alors, mon psychiatre et aussi un naturopathe qui m'accompagne. Ça fait des années qu'ils me disent, faut écrire. Enfin, en tout cas, coucher sur le papier, ça fait du bien. Et moi, déjà, j'arrivais pas à dire je. Alors, écrire je, c'était bon, d'autant plus compliqué. Et après, j'ai su me faire aider, accompagnée par une coach littéraire, donc qui m'a guidée, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais les mots, par contre, c'était les miens, quoi, fallait que ça sorte. Donc c'est vrai que c'est thérapeutique, mais j'avouerais que au début, sortir tout ce qui est difficile, ça m'a fait chuter. Mais je me dis, j'ai chuté pour mieux remonter vers la lumière. Parce que l'année, j'ai mis un an à peu près à écrire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de barres, mais je suis remontée à chaque fois. Et en fait, ce qui m'a porté, j'ai voulu publier le livre, c'était pour aider, parce que j'étais persuadée que ça pouvait aider des personnes, autres que moi. Voilà.
Oui, écrire sur soi, c'est pas évident pour soi-même. Là, tu le partages, tu te mets littéralement à nu, finalement. Comment t'as réagi? Quels ont été les premiers retours et les personnes qui ont pu lire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit merci? Est-ce que t'as appréhendé aussi le regard qu'on pouvait te porter ensuite?
Déjà, ce que j'ai ressenti, enfin, j'avais peur d'être un peu mal à l'aise, en fait, parce que les gens me lisaient des choses assez quand même personnelles, intimes. Et je crois que j'ai trouvé les mots justes parce que je sens pas ça du tout, en fait. Je dis pourtant, les gens, ils rentrent dans ma vie, quoi. Mais non. Et quand j'ai eu les premiers retours où il y a même des personnes qui m'ont dit, bah, vous savez, moi, il y a ce chapitre ou ce chapitre, j'aurais pu l'écrire. Bah, là, je dis waouh. Enfin, je veux dire, c'était très fort, en fait, comme témoignage. D'autres qui disent merci, ça m'a éclairé sur, parce qu'il n'y a pas que les personnes bipolaires qui lisent, hein, ça peut être d'autres personnes ou de la famille. Et beaucoup d'aidants me disent, ah ben, je comprends mieux mon proche. Je me dis, ah ouais, c'est compliqué quand même. Enfin, et rien que ça, c'est ça aussi, ça aide. Enfin, j'ai le côté thérapeutique du livre, mais il y a aussi, ça me consolide, en fait, parce que ça fait un an et demi à peu près que je suis stabilisée, et je suis sûre que ces retours sur le livre et tout le travail que je fais autour, ça me consolide, mais vraiment.
Cathy, juste pour comprendre dans les grandes lignes la bipolarité, pour justement déjà commencer à évacuer certains tabous, certains préjugés sur cette maladie, qu'est-ce que c'est? Comment ça se caractérise, pour l'expliquer simplement?
Alors, la bipolarité, c'est ce qu'on appelle un trouble de l'humeur, mais c'est pas l'humeur.
C'est pas je vais bien ou je vais pas bien.
Je vais bien, je vais pas bien, je pleure, non, non. De l'humeur, donc quand c'est ce qu'on dit en up en anglais, quand c'est trop, c'est une période maniaque, enfin une crise maniaque. Quand c'est en bas, c'est une crise dépressive, mais assez intense quand même, quoi. C'est et sans forcément avoir de raison, parce que c'est un problème au niveau de la chimie du cerveau. Donc c'est pas de la folie ou je ne sais quoi. C'est très médicalement, il y a une raison dans le cerveau. Donc c'est comme tout pour moi toute autre maladie. Et faut pas en avoir peur, ça saute pas sur les gens. Le côté héréditaire, on me demande souvent, c'est je dirais, c'est pas 100% sûr que ça soit héréditaire.
On sait pas trop, en fait, la recherche ne sait pas vraiment.
C'est pas, non, mais moi, je suis pas en train de me dire, ah ben mince, mon papa là, moi, ça va continuer. Non, j'y pense pas. Je me dis, c'est pas. Et après, ça dépend ce qu'on vit dans la vie, en fait. Si vous avez des moments difficiles et tout qui vous fragilisent, peut-être que ça va vous mettre dans un état où la maladie peut apparaître. Bon, mais ça dépend de la vie de chacun, quoi.
Et ce qui est dur en termes de stéréotypes, justement, le regard des autres qui, du coup, vient influencer le regard qu'on peut se porter sur soi-même quand on est atteint de cette maladie. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont régulières, récurrentes? La peur, peut-être? Les gens ont peur?
Oui, je pense que souvent, on dit quand on connaît pas, on a peur. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut en parler. Là, je parle de bipolarité. Schizophrénie aussi, c'est très très stigmatisé. Hein. C'est pareil, c'est une maladie mentale comme une autre, hein. Enfin une maladie psychique. Et c'est vrai que ou des fois des petites blagues. Bon, après moi, j'ai de l'humour, il y a pas de souci et tout. Mais c'est vrai que des fois, on se dit oh là là, mais les gens ils sont pas du tout au courant. Après, on peut pas tout connaître, hein, c'est sûr, mais ça va dans le, moi je pense que ça va dans le bon chemin. Mais...
Ouais, quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas, donc d'où l'intérêt d'en parler. Et merci Cathy de le faire avec ton livre La petite fille au sourire figé, puis aussi au travers de tes témoignages. Justement, avant de se quitter, parce qu'aujourd'hui tu te lances pleinement dans cette aventure qui est plus que professionnelle. Hein, l'idée, c'est de partager via différents canaux aussi. Tu proposes quoi en fait? Vers quoi tu te diriges maintenant?
Alors déjà, moi, ce que je fais là, pour moi, c'est une. Je l'ai senti un jour, c'est une mission de vie vraiment. Parce que je me dis, ce que j'ai vécu, ça doit servir, enfin pas qu'à moi, et à d'autres personnes. Donc c'est vrai que moi, ce que je souhaiterais, c'est témoigner, pourquoi pas dans un établissement scolaire, dans des entreprises, dans des colloques, enfin peu importe. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est de parler de moi, c'est ce que je peux le faire de mieux, parce que c'est ma vie, donc voilà. Je suis pas en train de faire un cours de psychologie ou de psychiatrie, c'est pas du tout ça, mais c'est du vrai en fait. Et je veux montrer, au-delà de la bipolarité, qu'il faut parler. Quand on pense à la santé mentale des jeunes là qui s'est dégradée depuis le Covid, faut parler en fait. Des fois c'est compliqué, peut-être pas avec l'entourage, des professionnels peut-être ou des associations. Mais j'aimerais aussi témoigner pour ça qu'il faut parler parce que ça sauve des gens et ça fait du bien, quoi.
Donc, dans tous les cas, on y trouve un intérêt à lire La petite fille au sourire figé, qu'on soit concerné nous-mêmes par des questions de santé mentale. D'ailleurs, on est tous concernés. On l'a découvert, nous, au travers des semaines d'information sur la santé mentale, dont on est partenaire ici à Radio G avec l'émission Topette. La petite fille au sourire figé, du coup, on peut le retrouver où, ton ouvrage? Comment on le commande, Cathy?
Alors, dans toutes les librairies, en commande, sur commande. Et puis, autrement, sur les plateformes, traditionnel de commande de livres. Autrement, après j'ai mon site cathygermain.fr où on peut être en contact et puis je peux vous envoyer des exemplaires dédicacés. Donc voilà, il y a plein de façons d'obtenir le livre.
Cathy Germain, qu'on peut retrouver aussi sur Instagram, peut-être les réseaux sociaux, j'imagine.
Oui, Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà.
Et ben voilà, toutes les adresses sont prises. Merci beaucoup en tout cas Cathy d'être passée ce soir dans Topette.
Topette avec Pierre Benoît.
Topette, c'est fini pour ce soir. On est encore avec le Quasimodo qui nous fait l'honneur d'être là avec nous en studio ce soir dans l'émission. Ça va toujours le Quasimodo?
Oui, toujours.
Ça va Nolwenn? Il t'impressionne pas trop?
Toujours aussi, si un peu forcément.
Un petit peu, ouais.
Toujours impressionnant.
Alors je sais pas la taille que fait Garou, mais en tout cas je crois que t'es peut-être un peu plus grand toi.
Hein. On va jouer sur un centimètre, mais il doit faire 1m88 et je fais 1m89. En gros, j'ai un centimètre de plus que lui, d'après ce que Philippe Tremblay m'a dit, que Philippe a travaillé avec Garou. Donc,
Ah oui, donc on n'est pas très loin de la vérité finalement. Ah, ça dépend des cheveux, comment ils vont être longs, plus ou moins longs en fonction pour modifier la taille. Il nous reste assez de temps juste pour donner les infos pratiques, pour découvrir tout l'univers que tu as proposé, l'histoire que tu as partagée sur YouTube, comment ça marche, comment on peut découvrir, est-ce qu'on peut, je sais pas, t'épauler aussi, suivre les prochaines actualités, et puis surtout, la vidéo qui va résumer ces 2 ans.
C'est simple, donc sur la chaîne YouTube Le Quasimodo, il y a donc des vidéos making of, où je parle de chaque étape de ce qui a été fait. Et la série surtout qui est bientôt, donc qui est bientôt finie. 14 épisodes de, on va dire, 10-20 minutes. Donc ça reste très court, hein, pas pour des épisodes de série. Y a des playbacks aussi où je me suis amusé à reprendre des chansons de la comédie musicale et où je m'amuse. Et bah pour les deux ans, pour fêter les deux ans, j'ai préparé une vidéo qui va sortir là le 30 avril, le dernier dimanche d'avril, pour remercier tout le monde, donc remercier les événements où j'ai participé, remercier Hélène, remercier tout le monde. Donc elle est très longue parce qu'il y a beaucoup de gens à remercier, et en même temps je m'en sers pour faire une espèce de court métrage pour finir la série totalement, vraiment. Je pense que ouais, j'ai tout dit.
Et Instagram éventuellement, le Quasimodo aussi.
Insta, si oui, Insta où je raconte, où je m'amuse à balancer des photos, des conventions, des photos. Là en ce moment, je suis en train de m'amuser à partager quelques images de la série. Comme ça me permet de faire du contenu en plus sans avoir besoin de faire d'autres shootings. Il y a Insta, il y a TikTok, même si sur TikTok je suis beaucoup moins actif, mais il y a un TikTok. Facebook, c'est j'y suis sans vraiment y être. Faut avouer, c'est un peu périmé quand même comme plateforme. Mais voilà, ouais, TikTok, YouTube, c'est déjà pas mal.
En tout cas, bravo à toi, parce que c'est vrai que tu étais venu avec beaucoup de paillettes dans les yeux, d'une certaine façon, nous parler de ce projet, quand tu l'avais au début, il y a deux ans, ici, dans l'émission Topette. Aujourd'hui, ça y est, c'est fait, donc bah, bravo pour tout le chemin parcouru, et puis bah, toutes les belles aventures qui ont jalonné, justement, ce parcours. Des aventures qui vont continuer, parce que ça t'a donné envie d'aller encore plus loin, je crois.
En gros, ce qui se passe, c'est que, oui, la série m'a donné l'envie de faire encore plus voyager Quasimodo. Bon, cette fois-ci Esmeralda, c'est bon, on l'a fait, donc je vais arrêter de courir après elle. Peut-être parce que je l'ai trouvée ou peut-être pas, hein, je laisserai la réponse sera dans la série. Mais en gros, il faut savoir qu'à la base de chez base du projet, je voulais aller au Massif Central. Je voulais aller au Puy-de-Dôme parce que quand j'étais enfant, j'y suis allé une fois et ça m'avait marqué. Et là, pour mes 34 ans, je vais essayer de tourner une vidéo où je vais au Massif Central, et tout ça sera rajouté dans un projet beaucoup plus grand qui est un moyen métrage. Alors je n'ai pas de date de sortie, je ne fixe pas de date parce que c'est selon le budget, c'est selon ce qui va m'arriver avec la MDPH et tout le bordel, donc c'est très compliqué. Mais j'ai un gros projet de moyen métrage où, au lieu que ça soit qu'une personne à retrouver, je me balade et je trouve des parties des personnages, donc de Frollo, de Phébus, de Fleur de Lys, de Clopin et d'Esmeralda, et dans différentes villes de France qui m'intéressent personnellement, histoire de m'amuser encore, parce que le but d'un projet, ce que tu fais sur YouTube est très important, faut que ça soit toujours pour ton kiff et pour t'amuser. Si tu le fais parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent, parce que nanana, fais-le pas. Fais-le pour ton kiff.
Et ben voilà, ça c'est encore une belle parole que tu nous prodigues, Quasimodo. En tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler de toi et de te voir déambuler, non seulement dans les rues d'Angers, mais aussi partout en France. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. On va se quitter en musique, mais avant, on vous rappelle quand même le plateau ciné de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, dans la salle culturelle Camille Lepage, au cœur de l'atelier d'artistes. C'est le 20 mars. Il y a aussi le festival Couleurs Chansons, du 21 au 23 mars, au CCJC, au centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Et les 25 et 26 mars, si vous aimez le jazz, allez au Boléro. Il y a deux soirées consacrées à Stevie Wonder. C'est proposé par Pierrick Menou. Et demain, nous, on est en sport. Prenez soin de vous. À demain, 18h10. Et Topette.
Toute sa vie, faut la passer à tenir. Tenir le coup, tenir le choc, tenir le cap, on ne fait que ça, tenir. C'est le leitmotiv de l'existence. Faut tenir la cadence, les rênes et chemins faisant, tenir la distance. Tenir la pression pour obtenir le pompon. Tenir la corde pour pas se la mettre au cou et pendre au balcon. Tenir la vedette et pour se faire tenir tête à ceux qui nous la prennent et font même tout pour nous mettre en miettes. Tenir la marée, tenir le haut du pavé, tenir la dragée haute à ceux qui veulent nous voir appliquer. Tenir en joue quiconque se met en travers de notre route, parce qu'il faut bien la tenir, la route, pour éviter la banqueroute. Tenir, tenir, on ne fait que ça, tenir. Tenir, tenir et se retenir d'en finir. Tenir, tenir, même si ça prête à soupir. Et s'interdire de fléchir.
tenir la forme, tenir son rang, c'est chaud. Tenir les cordons de la bourse ou se tenir à carreau. Tenir le crachoir des financiers cupides. Savoir les tenir en haleine pour obtenir des subsides. Puis se montrer digne de confiance, tenir ses promesses. Prouver chaque jour qu'on est capable de tenir la rampe et la caisse. Tenir le bon bout, tenir malgré les à-coups. Tenir comme un fakir sur son lit de clous à la maison Itou. Faut tenir la barre et la baraque si tu veux pas qu'elle plaque. Et la voir tenir la main d'un autre mec en jurant qu'elle s'éclate. Si c'est pas dans tes projets de tenir la chandelle, si tu veux pas qu'elle jette, si tu penses tenir à elle. Il faut tenir, tenir, tenir. Tenir, tenir et te retenir d'en finir. Tenir, tenir même si ça prête à souffrir. Interdire de fléchir.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.